سؤال الصحراء هو بالدرجة الأولى سؤال وجودي. الصحراء ليست صحراء في الواقع، ولكنها رمز الوجود الإنساني، لأن فيما إذا لو تأملنا قليلا لاكتشفنا أن هذه الصحراء الثرية بحضور الروح هي فردوس، فردوس وجود، فردوس. والفردوس أو فلنقل العمران، المدينة بغياب الروح جحيم، هذه مفارقة. ولذا في أعمالي هناك البعد الوجودي للصحراء، وهناك البعد الميتافيزيقي للصحراء، لأن الصحراء هي في الواقع ليست مكان، لأن للمكان شروط. أول شروط الحضور في المكان هو حضور الماء، فإذا غاب الماء ففي الواقع لا يمكن الاستقرار في هذا المكان. ولهذا تتحول الصحراء هنا إلى مكان غيبي، إلى مكان ظل لمكان في واقع الأمر. وهذا شيء يدعو إلى الدهشة.
We'll be right back. What if, instead of the presumption of separability, that space-time and causal efficient causality poses in our thinking, what if we start from somewhere else, from the assumption that everything is not like does not follow, or everything and each and every existent thing, that they do not follow the model of the body, right? In the ways in which the concept of the body, as it informs, has informed the Kantian program. But what if we started with the assumption that in spite of spatial distance and in spite of any kind of continuity that may be given by time, everything is very much, everything that exists is constituted by, you know, these, let's call them particles, that have been around since the beginning of the cosmos, and for that reason are fundamentally, you know, entangled and co-constituted.
As though I have been surrounded by mirrors of hard reflective glass. The invisible man filled his room with 1,369 light bulbs. Simultaneously burning. Simultaneously reflecting light back onto themselves.
And I work with sound. I make sound in a way to relate to space and time, but in a very simple way. I think it's I always start with from sound, space. I don't consider my work as music, but when I collaborate with musician, it's more like music. And then when I work with space, it's more like sculpture.
entre les divers procédés situationnistes, la dérive se définit comme une technique du passage hâtif à travers des ambiances variées. Le concept de dérive est indissolublement lié à la reconnaissance d'effets de nature psychogéographique et à l'affirmation d'un comportement ludique constructif, ce qui l'oppose en tout point aux notions classiques de voyage et de promenade. Une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent, pour une durée plus ou moins longue, aux raisons de se déplacer et d'agir qu'elles se connaissent généralement, aux relations, aux travaux et aux loisirs qui leur sont propres, pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent. La part de l'aléatoire est ici moins déterminante qu'on ne croit. Du point de vue de la dérive, il existe un relief psychogéographique des villes, avec des courants constants, des points fixes et des tourbillons qui rendent l'accès ou la sortie de certaines zones formalisées. Mais la dérive, dans son unité, comprend à la fois se laisser aller et sa contradiction nécessaire, la domination des variations psychogéographiques par la connaissance et le calcul de leurs possibilités. Sous ce dernier aspect, les données mises en évidence par l'écologie, et si bornées que soit a priori l'espace social, dont cette science propose l'étude, ne laissent pas de soutenir utilement la pensée psychogéographique. L'analyse écologique du caractère absolu ou relatif des coupures du tissu urbain, du rôle des microclimats, des unités élémentaires entièrement distinctes des quartiers administratifs, et surtout de l'action dominante des centres d'attraction, doit être utilisée et complétée par la méthode psychogéographique. Le terrain passionnel objectif, où se meut la dérive, doit être défini en même temps selon son propre déterminisme et selon ses rapports avec la morphologie sociale. Chambard de Lowe, dans son étude sur Paris et l'agglomération parisienne, Bibliothèque de sociologie contemporaine, PUF, 1952, note qu'un quartier urbain n'est pas déterminé seulement par les facteurs géographiques et économiques, mais par la représentation que ses habitants et ceux des autres quartiers en ont guillemets. Est présente dans le même ouvrage, pour montrer l'étroitesse du Paris réel, dans lequel vit chaque individu géographiquement un cadre dont le rayon est extrêmement petit guillemets, le tracé de tous les parcours effectués en une année par une étudiante du 16e arrondissement. Ces parcours dessinent un triangle de dimension réduite, sans échapper, dont les trois sommets sont l'école des sciences politiques, le domicile de la jeune fille, et celui de son professeur de piano. Il n'est pas douteux que de tels schémas, exemple d'une poésie moderne susceptible d'entraîner de vives réactions affectives, dans ce cas, l'indignation qu'il soit possible de vivre de la sorte, virgule, ou même la théorie, avancée par Burgess à propos de Chicago, de la répartition des activités sociales en zones concentriques définies, ne doivent servir au progrès de la dérive. Le hasard joue dans la dérive un rôle d'autant plus important que l'observation psychogéographique est encore peu assurée. Mais l'action du hasard est naturellement conservatrice étant, dans un nouveau cadre, a tout ramené à l'alternance d'un nombre limité de variantes et à l'habitude. Le progrès n'étant jamais que la rupture d'un des champs où s'exerce le hasard, par la création de nouvelles conditions plus favorables à nos desseins, on peut dire que les hasards de la dérive sont foncièrement différents de ceux de la promenade, mais que les premières attirances psychogéographiques découvertes risquent de fixer le sujet ou le groupe dérivant autour de nouveaux axes habituels où tout les ramène constamment. Une insuffisante défiance à l'égard du hasard et de son emploi idéologique toujours réactionnaire, condamné à un échec morne, la célèbre déambulation sans but tentée en 1923 par quatre surréalistes à partir d'une ville tirée au sort. L'errance en rase campagne est évidemment déprimante, et les interventions du hasard y sont plus pauvres que jamais. Mais l'irréflexion est poussée bien plus loin dans Medium, mai 1954, par un certain Pierre Vendry, qui croit pouvoir rapprocher de cette anecdote, parce que tout cela participait d'une même libération antidéterministe. Quelques expériences probabilistes, par exemple sur la répartition aléatoire de têtards de grenouilles dans un cristallisoire circulaire, dont il donne le fin mot en précisant « Il faut, bien entendu, qu'une telle foule ne subisse de l'extérieur aucune influence directrice ». Dans ces conditions, la palme revient effectivement aux têtards qui ont cet avantage d'être aussi dénués que possible d'intelligence, de sociabilité et de sexualité, et, par conséquent, vraiment indépendants les uns des autres. Aux antipodes de ces aberrations, le caractère principalement urbain de la dérive, au contact des centres de possibilités et de signification, que sont les grandes villes transformées par l'industrie, répondrait plutôt à la phrase de Marx. Les hommes ne peuvent rien voir autour d'eux qui ne soit leur visage, tout parle d'eux-mêmes. Leur paysage même est animé.